Tous les joueurs de l'équipe de France souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Et nous ferons tout individuellement pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive.
On était le 20 juin 2010 et Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus, lisait un communiqué préparé par les joueurs pendant que ces derniers refusaient de descendre du bus stationné derrière lui et sur lequel on pouvait lire ces mots « Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu ». Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Ancienne ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, ancienne ministre de la Santé et des Sports de Nicolas Sarkozy, figure médiatique aussi, on vous retrouve régulièrement sur BFM où vous livrez votre regard sur l'actu. Et aujourd'hui, c'est bien pour revenir sur cet événement majeur de 2010 qu'on a eu envie de vous invité, l'épisode tragicomique pour le foot français, dit de la grève des Bleus à Naïsna, en pleine Coupe du Monde. Vous étiez quasiment aux premières loges, on va revenir sur ce qui s'est passé, mais déjà sur le moment, quand vous voyez les images, comme nous, hein, de ce bus immobile avec Domenech devant, qu'est-ce que vous vous dites ?
Alors je ne vois pas directement les images, parce que je suis en train d'inaugurer une exposition de photos à Soweto,
tout va bien,
organisée jusque-là. Par l'ambassade de France et son ambassadeur, Jacques Lapouge. Alors, évidemment, la veille, on avait eu le titre de l'équipe « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Voilà.
Titre mémorable, il faut planter le décor, vous avez raison, Roselyne, tout à fait.
Qu'aurait dit Anelka à Raymond Domenech. Et mon conseiller sport me tire par la manche au moment où je vais prononcer mon discours et me dit « Les gars ont refusé de descendre du bus ». Waouh ! Et là, je me dis, bon, il faut que je téléphone au président de la République, il faut que je téléphone au Premier ministre. On arrive à me trouver un petit coin dans cette salle de classe, parce qu'en fait, c'est une école dans laquelle se déroule l'exposition. Je téléphone au président de la République qui me dit... tu restes en Afrique du Sud, tu vas à la rencontre des joueurs et tu les engueules. Facile.
Super mission.
Oui, mission de rêve. Et ensuite, je téléphone à François Fillon qui me fait « Bon, c'est le président qui commande, mais tout ça, c'est quand même que des gars qui tapent dans un ballon. »
Ah, deux visions complètement différentes.
Deux visions complètement différentes et qui, je crois, décrivent assez bien les deux personnages.
On va y revenir. Zoom, zoom back spécial 2010 aujourd'hui avec la ministre des Sports de l'époque, celle qui avait dû scoltiner l'affaire du bus quand nos Bleus faisaient la grève de l'entraînement en pleine Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Quelles conséquences ça a eu pour les footballeurs français et leur image? Et surtout, est-ce que les choses auraient été différentes si Raymond Domenech avait lu Le Management Totalitaire, Ne vous laissez plus déborder par les cons, l'ouvrage de référence de notre rédacteur en chef ici, Cyril Lacarrière. Je peux vous dire qu'avec lui, c'est en courant qu'il serait descendu du bus, les caïds. Un zoom zoom back, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans Zoom Zoom Back. Chaque vendredi, vous le savez, on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, montez dans le bus magique avec moi, direction 2010, on écoutait tous Lady Gaga.
Ah oui.
On dansait tous sur Stromae.
Alors on danse. Alors on danse.
Y compris Roselyne Bachelot, visiblement. Ou, pour Manon, sur David Guetta.
C'est génial. Alors, 2010.
Sauf évidemment Quentin qui lui en 2010 dansait sur.
Ah, oula. Elle vous présentait, elle est bretonne.
Le nouvel album de Norwenn Leroy. Oui, mais c'est vos goûts musicaux.
Non.
Oui, Roselyne, à l'époque, vous en doutez, Quentin n'avait pas beaucoup d'amis. Mais c'était moins pire que Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, qui lui en écoutait. Spiritus Dei, le tube d'un groupe étoile filante de la variété française. Les prêtres.
Ah, les prêtres.
Eh oui. À l'heure où je vous parle, ils n'existent plus que dans la mémoire de Pierre, mais à l'époque, ils avaient été certifiés disque d'or. Bref, 2010...
Ah ouais, d'être un
C'est une idée, on pourrait le suggérer de se relancer là-bas. Bien joué Roselyne, je vois que vous êtes toujours aussi en forme. Bref, 2010, année riche musicalement et aussi orthophoniquement. Puisque c'est cette année-là qu'on avait tous essayé de prononcer correctement le nom du volcan islandais qui bloquait l'espace aérien en Europe, Bref, on avait dit, on avait simplifié en l'appelant le gros volcan islandais.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Alors Roselyne Bachelot, juste avant de commencer par notre fil rouge, la grève du bus des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du Monde, je vous présente des champions beaucoup plus disciplinés, à commencer par celle qui en 2010 se formait à son futur métier de journalisme sur les bancs de l'ESJ, mais surtout, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, dans les soirées open bar de l'ESJ. Quelle année 2010 pour vous, hein.
C'est génial.
Mais Manon, chaque vendredi, vous nous racontez l'histoire d'une première fois.
Bah oui, parce qu'en 2010, on était tous sur Facebook en train de poker nos amis quand une nouvelle application a fait son apparition, une certaine Instagram qui a cartonné dès son lancement. Je vous raconte sa création en fin d'émission.
Lui, s'il avait fait le même métier en 2010, il aurait dû passer 3 heures chaque jeudi aux archives de l'INA pour découper des bandes au ciseau, au mieux enregistrer les documents sur des disquettes molles, ou alors, comme en 2025, il se serait arrangé pour trouver quelqu'un sur place pour faire le taf à sa place. Quentin, chaque vendredi, grâce à vous et surtout grâce à vos amis de l'INA, on dézoome.
Haïti détruite par un tremblement de terre, Simone Veil entre à l'Académie française et le début de la ferme est en cours. Retour en 2010, Mathieu.
Et contrairement à ce que vous pensez 2010, Quentin, ce n'était pas que... Non.
Une grosse partie.
Non. Manon, qui elle, sortait déjà le soir pendant que vous repassiez en boucle la VHS du Grand Prix d'Australie remportée cette année-là par Jenson Button. Oui. 2010, c'était plutôt une chanson dont l'histoire va vous surprendre. Camille Diao viendra nous la raconter et puis elle nous surprend tous les jours désormais, même le vendredi. Oui, Marie De Breuer sera là aussi en fin d'émission. Mais pour l'heure, mais c'est vrai, je vous l'annonce, je ne vous mens pas. Zoom Zoom Back, direction l'Afrique du Sud pour ce qui restera l'un des plus grands traumatismes de l'histoire du foot français avec l'irruption de Franck Ribéry en claquettes chaussettes dans Téléfoot. La grève des Bleus à Naïsna. Roselyne Bachelot, ministre des Sports à l'époque, est avec nous. Roselyne, vous étiez donc en train d'inaugurer une exposition ce jour-là, le jour où vous avez appris qu'il ne voulait pas descendre du bus. On a compris que vous avez tout de suite essayé de joindre le président de la République et le Premier ministre qui n'avaient pas du tout la même vision de la gravité, en tout cas, de l'événement. Mais vous, quel était votre ressenti à vous ?
J'ai eu le sentiment, en arrivant en Afrique du Sud, que je tombais dans une sorte de drame social, de tragédie qui peut apparaître comme un peu ridicule, mais en fait qui ne l'était pas. Quand je suis, le jour où la parution du fameux titre de l'équipe qui va mettre le feu aux poudres, dont on sait maintenant sur le plan historique que cette phrase « va te faire enculer, sale fils de pute », du moins dans la dernière partie, n'a sans doute pas été prononcée par Anelka. D'ailleurs, Anelka avait porté plainte contre l'équipe et il n'a pas gagné son procès. Moi, au début, je me dis que c'est des propos de vestiaire, des propos de sortie de douche, tout ça n'a pas d'intérêt.
Vous y croyez pas, sur le moment ?
À ce moment-là, je me dis que c'est quand même surdimensionné, mais je reçois, je crois me rappeler que j'ai reçu 27 coups de téléphone de l'Élysée, du Premier ministre, de ma conseillère en communication. Je dis, écoutez, je vais pas intervenir là-dessus, je suis ministre de la République. Et puis, à un moment, je me dis, je fais un communiqué plus long que de bois tumeur, rappelant les joueurs à la dignité et à la retenue, bien sûr, ça sert beaucoup. Et puis, je me dis, on va sortir de ça plus ou moins.
Oui, ça va se dégonfler, quoi.
Et puis, alors, vraiment, c'est terrible.
L'image, elle est compliquée. On est pendant la Coupe du Monde, un bus immobile. C'est la France qui est immobile à ce moment-là. Pour les Français, c'est ce que ça dégage comme image.
Mais bien sûr, c'est incroyable. Et c'est en ça que la réflexion de François Fillon n'est pas adéquate. Parce que le football, c'est pas un sport ordinaire. C'est un sport qui véhicule des mythes, des images tout à fait considérables. Imaginez que dans cette semaine où je vais être à Naïsna et dans les différents endroits, Paul Okouane et Bloemfontein, je vais faire 5 fois. L'entrée du journal de TF1. Quel est le ministre qui s'est arrivé, même dans des situations absolument incroyables sur le plan historique? Ça dit quand même quelque chose.
De l'événement. La débâcle de Naïsna, on continue de zoomer sur ce temps fort de 2010 avec la ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, juste après Angus et Julia Stone qui cette année-là chantaient Quentin.
Trimatolo.
Mais non, Big Jet Plane, c'est Big Jet Plane. Vous étiez où cette année-là? C'est possible. Pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She drives me crazy, she drives me crazy. Call me
take you higher.
Elle était en Afrique du Sud à quelques kilomètres du psychodrame quand il est survenu. 22 footballeurs qui refusent de descendre d'un bus pour s'entraîner en pleine Coupe du Monde. Roselyne Bachelot, alors ministre des Sports, est avec nous dans Zoom Zoom Zem spécial 2010. Roselyne, on parlait des fameux propos de Nicolas Anelka à l'encontre de Raymond Domenech. Est-ce que ça, c'est des propos que vous avez découverts a posteriori? On ne vous a pas passé un coup de fil pour vous dire, en tout cas pour vous dire que Nicolas Anelka allait être écarté du groupe?
Après le match France-Mexique, Apollo Kwan compère 0-2. Je vous raconte pas l'ambiance dans l'avion, c'était une catastrophe. On a d'ailleurs raconté que les footballeurs s'étaient battus, ce qui est absolument faux. J'étais avec eux, ils ne se sont pas battus. Mais c'était peut-être pire, cette ambiance de merde. Je ne peux pas employer un autre terme. Et pendant toute la journée du lendemain, le 18 juin, c'était pas l'appel.
Non.
Ou du moins, ça s'écrivait pas de la même façon. On sait qu'il se trame des choses. Je ne sais pas quoi, mais les joueurs sont fuyants. Il y a des conciliabules dans les coins, dans l'hôtel du Petzula Resort. Il se passe des choses, mais on n'arrive pas à savoir avec mes conseillers.
On ne peut pas imaginer que c'est une grève qui se prépare.
Ah non, absolument pas. Et donc, là, il y a quelque chose qui va se passer. Là, donc, il y a sur le terrain d'entraînement de l'hôtel qui s'appelle très très mal Fields of Dream, le chant des rêves, on n'aurait pas pu trouver mieux. On voit évidemment, ensuite je vais voir la séquence, les types sortent du bus. Ils ne portent pas les crampons, ils portent soi-disant pour un entraînement, ils ne sont pas en crampons, ils sont en basket. Là, on se dit, il y a quelque chose, il y a des papiers qui circulent, on voit Evra, le capitaine, qui va vers Domenech, qui l'enjoint de lire quelque chose, on voit le préparateur Duverne qui en vient aux mains avec Evra, enfin tout ça c'est dans un désordre terrible, et puis Domenech, et c'est son grand tort, accepte de lire la proclamation des joueurs, alors que c'était aux joueurs de la lire et non pas à Raymond Domenech. Et là, il remonte dans le bus, il tire les rideaux pour qu'on ne les voie pas. Et ma foi, la tragédie est consommée.
Vous faites, vous, Roselyne Bachelot, figure d'autorité à ce moment-là. Comment vous voient les joueurs? Ou le staff, d'ailleurs?
Alors, c'est assez compliqué parce que quand j'arrive à Naïsna le 16 juin, donc la veille du match avec le Mexique, j'ai l'interdiction d'aller saluer les joueurs de la part des coachs, du staff.
L'interdiction vient de qui ?
Au motif que ça risquait de déconcentrer les joueurs. Je veux bien croire que j'ai un charisme de cristal, qui n'a d'ailleurs échappé à personne.
Évidemment.
Mais quand même, qu'une simple poignée de main de ma part puisse déconcentrer les joueurs...
Mais pardon, mais qui vous l'interdit ?
Raymond Domenech.
Ah.
D'accord.
Et je crois que... Déjà, la situation, la tragédie est consommée, et on ne veut pas que je rentre en contact avec les joueurs. On ne veut pas que tout ça, je puisse justement jouer de mon autorité de ministre des Sports. Mais j'arrive quand même dans la salle à manger, et je vois quatre tables, la table des coachs, trois autres tables où les joueurs sont répartis en clans et très loin, la table de la Fédération française de football. Et là, je me dis, on est dans la merde.
Oui.
Parce que, évidemment, l'unité d'une équipe, on voit, elle est complètement détruite et que Raymond Domenech ne dirige plus rien.
Ouais. Le groupe ne vit pas bien, comme dit tout le temps Didier Deschamps. Le groupe vit bien avec lui. Alors, Roselyne Bachelot, on va laisser de côté quelques instants Patrice Evra et ses copains du bus pour dézoomer sur 2010, car il s'est passé beaucoup de choses cette année-là, Quentin. Enfin, les personnes de l'INA qui aident Quentin ont eu beaucoup de boulot cette fois.
Le 12 janvier 2010, la terre tremble et la première annonce a lieu dans un JT de nuit.
Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a été enregistré mardi à Haïti. L'ouest du pays, la région de la capitale Port-au-Prince, aurait été frappée. Selon plusieurs témoins, la secousse a duré plus d'une minute. Le séisme a été suivi de deux répliques très fortes. Une alerte au tsunami a été déclenchée. L'ambassadeur américain du pays évoque déjà une catastrophe majeure.
Le bilan est dévastateur. 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abri. Dès le lendemain, reportage à Orly pour les Français qui étaient sur place et qui ont survécu, ils se disent miraculés.
Quand on voit des vivants qui cohabitent avec des morts en Haïti, ah là là, c'est horrible, c'est choquant. Ça, c'est quelque chose qui prendra du temps, en fait, pour être oublié.
Le pays caribéen, 15 ans plus tard, porte encore les cicatrices psychologiques et structurelles de cette tragédie. Le 18 mars, l'Académie française accueille Simone Veil. À 82 ans, c'est la sixième femme à rejoindre le cercle très fermé des immortels. C'est Jean d'Ormesson qui fait le discours de réception avec le ton, s'il vous plaît.
C'est une joie, madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le 13e fauteuil qui fut celui de Racine. De Racine, madame. De Racine. Je suis chargé ici de vous expliquer en trois quarts d'heure, madame, pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous voir lui succéder.
J'aurais pu vous passer les 45 minutes, c'est magnifique, et pour ceux qui le veulent, le discours est à voir en intégralité sur le site de l'INA. Quand Simone Veil prend la parole à son tour, elle invoque ses parents disparus dans les camps.
Moi que ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, deux tiers de siècle après sa disparition dans l'enfer de Bergen-Belsen, c'est à elle que je pensais, c'est aussi à mon père, déporté lui aussi, et qui a disparu dans les pays baltes, qui m'accompagne. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine.
En avril 2010, une marée noire.
Bienvenue dans ce journal. D'abord donc cette course contre la montre engagée aux États-Unis pour éviter l'une des pires marées noires de l'histoire américaine. Il y a six jours, une plateforme pétrolière explosait et sombrait dans le golfe du Mexique. Une nappe gigantesque flotte près des côtes. Les autorités viennent de décider d'y mettre le feu.
La plateforme contenait 2,6 millions de litres de pétrole. Le géant pétrolier BP met 90 jours à colmater la fuite. La marée noire s'étend sur plus de 4800 m² et a pollué plus de 1 700 km de zones marécageuses et plages du golfe du Mexique, qui à ce moment-là s'appelait encore comme ça. Dans les boîtes, dans les soirées, en 2010, on s'est fait des souvenirs sur cette chanson. Ça, Manon Mariani, j'imagine que...
Ça a dansé.
D'accord. Alors qu'on danse sur Kid Cudi et David Guetta, les avions européens, eux, sont cloués au sol.
On revient maintenant à l'une des principales informations de cette journée. Le ciel européen bloqué, le trafic aérien paralysé par un énorme nuage de cendres craché par un volcan islandais.
Voilà, un volcan au nom imprononçable qui a paralysé le trafic aérien pendant plusieurs jours. Pourtant,
que la montagne est belle.
Oui, transition facile, parce que cette année-là, on perd Jean Ferrat.
Ah oui.
Disparition aussi de Philippe Séguin, Claude Chabrol et du designer Alexander McQueen.
Ça nous rajeunit pas.
En 2010, comme souvent, une réforme des retraites pour passer l'âge de départ à 62 ans.
Je ne passerai pas en force. Le temps qu'il faut sera donné à la discussion avec les partenaires sociaux. Mais je vous promets qu'avant 6 mois, les mesures nécessaires et justes auront été adoptées.
À l'Assemblée nationale, UMP et Nouveau Centre s'affichent derrière François Fillon.
La réforme actuelle, monsieur le président Sauvadet, elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est la réforme du bon sens. et c'est la réforme de la République sociale. Et je vous le dis, dans quelques temps, cette réforme fera l'objet, comme les autres, d'un large consensus national.
Et puisqu'on parle de retraités, le 16 juin 2010, révélation Mediapart sur la plus riche d'entre eux.
Nouvel épisode dans l'affaire Liliane Bettencourt. La milliardaire et François-Marie Bagné, l'artiste à qui elle a versé une partie de sa fortune, ont décidé de porter plainte après la révélation de conversations téléphoniques. Des conversations au cours desquelles sont évoquées des opérations financières illégales et dans lesquelles apparaît le nom d'Éric Woerth, le ministre du Travail, et son épouse. Le maître d'hôtel qui avait réalisé ces enregistrements clandestinement a été remis en liberté aujourd'hui après 48 heures de garde à vue.
Et c'est sur le début de cette affaire qui finira devant la justice que je referme ce complètement aux archives de 2010. Roselyne Bachelot, l'affaire Bettencourt, c'est la plus grosse affaire politique de cette période pour vous?
Oui. Curieusement, ça va laisser moins de souvenirs que Naïs Nin, parce que je n'étais pas aux premières loges de cette affaire, qui a effectivement fait beaucoup parler, parce que chaque fois qu'il y a des gens très riches, ça cause une sorte de fantasme considérable. Les footballeurs aussi sont très riches, certains sont peut-être plus riches que Madame Bettencourt, d'ailleurs.
Ah, peut-être pas quand même que Madame Bettencourt, mais c'est vrai qu'ils sont riches. On revient à ce bus de Naïs Nin, Roselyne Bachelot, avec nous cet après-midi pour parler de cet événement en 2010. On n'était même pas sorti des phases de poule dans cette Coupe du Monde. C'était une vraie débâcle. Roselyne, est-ce qu'on sait, est-ce qu'avec le recul, on a démêlé un peu le vrai du faux, ce qui s'était vraiment passé? Vous parliez de clans tout à l'heure. Vous parliez aussi à une époque de gamins apeurés. Il y avait des jeunes dans cette équipe de France à l'époque qui peut-être se sont laissés entraîner par les plus vieux d'entre eux.
Oui, il faut bien comprendre comment on devient footballeur professionnel. Très souvent, on est arraché à sa famille très jeune pour rentrer dans une école de foot où on va gagner très vite de l'argent. On essaie de promouvoir un double projet parce qu'on sait bien que les carrières footballistiques ne durent pas très longtemps. Mais c'est vrai que cet afflux d'argent absolument considérable, le fait qu'on a un parcours scolaire inexistant ou chaotique, tout ça, c'est pas quelque chose qui construit des hommes très matures. Comment en serait-il autrement, d'ailleurs? Et quand j'ai parlé de caïds immatures commandant des gamins apeurés, dans la communication que j'ai faite en réponse aux questions au gouvernement, ça n'a pas été compris. Mais ensuite, tout le monde a conclu que mon diagnostic était juste. Mais j'ai été entraîné dans un maelstrom tout à fait considérable parce que, évidemment, j'ai répondu à l'objurgation de Nicolas Sarkozy « Tu vas vers les joueurs et tu les engueules. » Et là, il va quand même se passer des choses.
Justement, Manon. Nicolas Sarkozy, vous l'avez évoqué, mais il suivait vraiment de près cette histoire?
Nicolas Sarkozy est un dingue de sport et précisément de football. C'est le gars qui va vous dire en 83, machin fait une passe à truc à la 47e minute. C'est hallucinant, hein, la connaissance de Sarkozy sur le foot. Non, ça, alors là, franchement, il le suit de très très près.
Il a reçu d'ailleurs Thierry Henry au retour.
Au surlendemain, du retour.
Lui a dit.
Et alors, on a envisagé ensemble une refonte du football. Mais est-ce qu'on peut revenir sur Bloemfontein? Parce que je vous ai quand même amené un document.
Un document secret? Inédit.
Le texte de mon discours aux joueurs.
Original. Oh, vous me le dédicacerez?
Alors, ah non,
alors, ça, par exemple, il vous est venu comment ce discours? Il a été le fruit d'une longue. Enfin, il a été élaboré patiemment avec des conseillers
Évidemment, je dois rester en Afrique du Sud. Je dois décommander, parce que j'étais ministre de la Santé, les rendez-vous que j'avais avec la ministre de la Santé sur les problèmes de sida. Il y avait une place dans l'avion pour aller à Bloemfontein. L'ambassadeur Jacques Lapouge était assez ennuyé. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive sur une ligne intérieure entre Johannesburg et Bloemfontein? Les autres, mes conseillers suivront. Je monte par l'échelle de coupé. L'avion était plein de supporters français. Bachelot à poil!
Oh, la scène.
C'était dément. Parce qu'évidemment, c'était à moi de gagner le match. Imaginez que Madame Le Pen, pas à court d'une bêtise, avait demandé ma démission.
Ah oui, bien sûr, parce,
oui,
c'est
bien
vous
sûr
la responsable.
Parce que j'étais responsable de tout ça, évidemment. Alors, je vais arriver à Bloemfontein. C'est assez inouï parce que je vais d'abord faire une conférence de presse et là, je rentre dans une salle qui était dans le stade de Bloemfontein et là c'est la stupéfaction. Il y a 200 journalistes de l'ensemble de la presse internationale, oui, dans des trucs que je ne connaissais pas, moi. Pakistania Today, Clarion de Buenos Aires, évidemment le Frankfurter Allgemeine Zeitung, deux pages, etc. 200 types déchaînés, et on est à 7 km de Bloemfontein. Je dis, on me posera trois questions. Pose trois questions, et là, impérial, je pars. Et là, le chauffeur s'était tiré, la voiture était fermée à clé. Je dis à mes conseillers, on est à 7 km dans la nuit noire, dans le Veld. Je dis, pas de problème, messieurs, on rentre à pied. Et là, nous voyons, nous sommes engagés sur la route, dans la nuit noire d'Afrique du Sud. Et là, je vais me mettre, je repère une voiture de police qui était sur la route, je l'arrête. J'ai volé une voiture de police sud-africaine, j'ai liquidé les policiers qui étaient dedans et nous sommes rentrés avec la voiture de police. Et là, j'ai cette rencontre avec les joueurs. Et avant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur dire ? Et j'avais comme conseiller Raphaël Ibanez, qui a été le capitaine de l'équipe de rugby. Et il a été confronté à des choses difficiles avec ses joueurs et il me dit, je leur ai demandé, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ? Et vous cette phrase, elle va guider mon discours. Je leur dis, je ne suis pas venu devant vous pour porter des jugements, pour instruire un procès. Une chose est certaine, vous avez perdu la bataille de la communication, mais vous avez perdu beaucoup plus que cela. Dans ce champ de ruines, je suis la seule à vous avoir soutenu, à vous soutenir. Je vous parle comme une mère. Et j'ai vidé, évidemment, Domenech, Escalette, le président de la Fédération, tout le monde. Je veux leur parler face à face. Rien ne sera comme avant. Et je leur dis, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ? Les gars, ils pleurent.
Donc ça les a touchés, ça a été...
Ça les a touchés profondément. Ça les a pas fait gagner.
Non, ça les a pas fait gagner, mais au moins ils ont joué. Parce que
ils ont joué et on a marqué... Je crois que c'est Malouda qui marque le but contre...
Le seul but de la compétition.
Le seul but de la compétition contre l'Afrique du Sud.
2010, une sacrée année avec Naïsna, mais aussi avec d'autres événements, et notamment la naissance d'un réseau social devenu un peu connu depuis. Manon nous raconte la naissance d'Instagram et Camille Diao nous raconte l'histoire derrière Waka Waka, l'un des grands tubes de 2010. On revient juste après Ours, Pierre et Alain Souchon, qui, oui, Manon, se porte toujours bien. À quoi penses-tu sur Inter ?
À quoi tu penses ? À quoi tu penses en ce moment ? À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? Est-ce qu'un jour c'est fini ? Fini la comédie ? Chanter après minuit ? Place de la mairie, les premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini? Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole, sept ans de passion. On pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles, faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses?
Zoom zoom zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Sans 2010, Manon serait peut-être au chômage aujourd'hui. En effet, s'il avait fallu qu'elle se contente de Facebook, LinkedIn et copains d'avant, sa rubrique quotidienne sur les réseaux sociaux aurait peut-être été un peu mince. Mm-hmm. Heureusement, en 2010, il s'est passé quelque chose d'important.
À l'automne 2010, un film-événement sort au cinéma. Il s'appelle The Social Network et il est réalisé par David Fincher. Cette fois, pas un thriller, mais un biopic revisité du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg.
Les gens aiment aller sur le net sans regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça à des amis, des photos, des profils ?
Quelques mois avant, Facebook a annoncé avoir atteint les 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Tous les feux sont au vert pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Mais attention, la concurrence arrive. Car cette année-là, deux ingénieurs informatiques diplômés de Stanford bossent sur une toute nouvelle application. Ils s'appellent Kevin Systrom et Mike Krieger. Ils ont 25 ans et après avoir écumé les entreprises de la Silicon Valley, ils veulent à leur tour lancer leur propre réseau social. Kevin Systrom a une passion, la photo, et c'est là-dessus qu'il veut axer son application. Il demande de l'aide à son copain de fac, Mike, l'un des meilleurs programmateurs qu'ils connaissent. À eux deux, ils créent une application centrée sur le partage de photos. Ils ont l'idée de s'inspirer de l'esthétique des Kodak et des Polaroid de leurs parents pour créer des filtres. Leur logo représente d'ailleurs un petit appareil vintage marron. Ils trouvent aussi un nom, Instagram, combinaison de Instant Camera et de Telegram. Elle est mise en ligne le 6 octobre 2010 sur tous les stores et c'est un carton immédiat.
That first day we had 25,000 people sign up and I remember like my eyes were wide. I was like I've never seen a service grow that quickly day one.
Le premier jour, on a eu plus de 25 000 personnes qui se sont inscrites. Je n'avais jamais vu une ascension pareille dès le premier jour d'un lancement. Kevin Systrom ne croit pas si bien dire. En une semaine, Instagram est téléchargé plus de 200 000 fois. Deux mois plus tard, l'application compte déjà plus d'un million d'utilisateurs. C'est du jamais vu. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas la messagerie. On ne pouvait que y poster des photos carrées avec des petits filtres. Mais ça a suffi pour attirer l'attention des marques et des célébrités qui ont aidé à populariser l'application. La première star à se créer un compte sur Instagram, c'est lui. Snoop Dogg. Et puis très vite, les jeunes stars de l'époque ont aussi commencé à apparaître sur Instagram. Justin Bieber, Kylie Jenner, Harry Styles, Rihanna. En 2010, ce sont eux qui dictent les tendances. Donc s'ils y sont, il faut y être aussi. Résultat, Instagram atteint les 13 millions d'utilisateurs en un an. Et ce succès fulgurant attire l'attention de la nouvelle icône de la Silicon Valley, Facebook. On est en 2014, le réseau est au sommet de sa gloire, sur le point d'atteindre le milliard d'utilisateurs. Mais Mark Zuckerberg en veut plus. Et il ne veut surtout pas se faire dépasser par une nouvelle application plus hype. Du coup, en avril 2012, il prend une décision.
The application has millions of users and yesterday Instagram was snapped up by Facebook for $1 billion.
Il achète Instagram pour $1 milliard. L'application appartient maintenant au groupe Facebook, mais toujours avec Kevin Systrom à sa tête. À partir de là, plus rien n'arrête l'ascension d'Instagram. La même année, la vidéo arrive sur l'application. L'année d'après, ça sera les stories qui deviennent l'outil préféré des Instagrammeurs. En deux ans, elle comptabilise plus de 400 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est deux fois plus que Snapchat, à qui elle a pourtant volé le concept. Mais en 2018, c'est la fin de l'idylle entre Kevin Systrom et Mark Zuckerberg. Il démissionne avec son partenaire de toujours, Mark Krieger. Le timing est un peu étrange car Instagram cartonne et vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Mais selon la presse américaine, les deux cofondateurs ne s'entendent plus avec Mark Zuckerberg. L'ambiance serait devenue tendue, notamment parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de l'application. Depuis, Kevin Systrom n'a pas l'air de faire grand-chose alors que Mark Krieger lui a été embauché par OpenIA. En tout cas, vu ce qu'il se passe en ce moment chez Meta, ils ont peut-être eu le nez de partir avant que le navire ne commence à prendre l'eau, même s'il faudra encore beaucoup de temps pour qu'il coule définitivement.
En même temps, maintenant je vais vous dire, si j'avais pris 500 millions de dollars, j'ai beau vous aimer beaucoup, je pense que je ne ferais pas grand-chose non plus. dommage qu'Instagram n'existait pas en juin 2010, on aurait eu de belles stories depuis l'intérieur du bus, hashtag Caïd. La grève des Bleus, Anaïs, on en parle avec Roselyne Bachelot qui était ministre des Sports à l'époque. Vous étiez, Roselyne, en Afrique du Sud. Vous nous avez raconté des trucs assez incroyables, et notamment l'intérêt de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui suivait cette affaire de près. Est-ce qu'à un moment, c'est pas posé la question, vu le bordel, que Nicolas Sarkozy aille engueuler les joueurs lui-même ?
Il aurait pu le faire.
Mais ça lui a traversé l'esprit.
Il me faisait confiance sur le fait d'engueuler les joueurs.
Ça, on fait confiance.
Il n'y a pas trop de problème. Il faut dire aussi, je crois qu'il faut rappeler la séquence absolument extraordinaire qui a précédé tout ça. Des matchs perdus, ratés pendant toute la période, des matchs amicaux. Rappelez-vous la fameuse main de Thierry Henry dans le match.
Oui.
Parce que, étant donné qu'on était en deuxième position dans le groupe 7, il fallait faire un barrage contre l'Irlande.
C'est la main contre l'Irlande qui nous qualifie.
Et au match retour, là, il y a la passe de Florent Malouda, et puis Malouda fait une passe à Thierry Henry qui la renvoie vers William Gallas, et là, il y a une main qui traînouille.
Une petite mimine, quoi,
qui traîne. Tout ça fait un scandale épouvantable, mais ça monte, c'est carrément un incident diplomatique entre l'Irlande
avec
et l'Irlande.
Avec l'Irlande, ah oui, vraiment,
Et puis, il y a eu l'affaire Zaya.
On
allait de catastrophe en catastrophe dans cette équipe.
Tous les voyants étaient au rouge.
Les voyants étaient au rouge. Ribéry, Govou, Benzema, Ben Arfa, qui sont avec une prostituée mineure. Tout ça. On arrive dans un contexte qu'on ne peut pas imaginer.
Ouais, c'était déjà très tendu au final.
C'était très tendu. Alors, moi, je n'étais pas au premier match contre l'Uruguay. C'était des quatre équipes. Je l'ai suivi à la télévision. On avait dans le salon avec les copains, on avait mis des flonflons.
Vous y croyez encore.
Voilà, on y croyait encore. Et là, c'est match nul, 0-0, donc on peut encore espérer, mais contre l'Uruguay. Ouais.
Et Raymond Domenech, Roselyne Bachelot, c'était le plus mauvais coach au plus mauvais moment, dans ce moment difficile. Vous parlez de lui comme un coach désemparé et sans autorité.
Oui, c'est vrai. Mais la question de garder Domenech s'est posée à la Fédération de football. Parce que après l'échec de l'Euro, où c'était quand même pas terrible comme... comme direction d'acteur.
Presque,
un peu de joueur. La question s'était posée du maintien de Raymond Domenech. Et il aurait été gardé parce que la somme qui lui aurait été versée si on avait dû le licencier
était trop importante.
Et la fédération, dont on connaît les petits moyens, et bienvenue chez les pauvres.
Évidemment, bien sûr.
N'a pas voulu donner cette indemnité à Raymond Domenech et de la garder, dit-on.
Dans quelques instants, elle n'était pas en Afrique du Sud au moment de la grève du bus. Elle avait d'autres soucis. Marie de Breuer, bonjour.
Bonjour. Oui, moi, en 2010, j'avais 15 ans. Et ça, c'est juste un savant calcul pour foutre les boules à notre rédacteur en chef. Voilà, lui rappeler qu'on a pile 20 ans d'écart.
Wow. Vraiment très, très moche. La chronique de Marie de Breuer vous attend en fin d'émission, mais pour l'heure. Pour parler musique, on accueille comme chaque vendredi Camille Diao. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Camille, cette semaine dans Rétropop, une chanson qui n'était pas seulement l'hymne officiel de la Marianoche en soirée en 2010, mais aussi l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2010.
Eh bah oui, souvenez-vous, pendant que les Bleus faisaient grève à Naïsna, le monde entier se trémoussait sur un son de Shakira. Cette fois, c'est pour l'Afrique. Et sur ce titre, justement, Shakira collabore avec un groupe sud-africain, Freshly Ground. Waka Waka est un tube mondial numéro 1 dans une quarantaine de pays. Plus de 4 milliards de vues sur YouTube à ce jour, c'est assez énorme. Et écoutez les paroles, elles sont taillées pour la compète. Ton tour de briller, n'attends pas, vas-y à fond. Shakira encourage les joueurs et elle file même la métaphore guerrière. Les joueurs sont des soldats alignés en première ligne et prêts pour la bataille. Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait c'est très fidèle aux origines de la chanson qui est tirée d'un chant militaire. À la surprise dans le studio.
Mais c'est surtout que c'est très proche. Ah bah c'est militaire, mais on traîne.
Ça, c'est l'original, donc ça s'appelle Zangalewa. C'est un air qu'on doit aux tirailleurs camerounais de la Seconde Guerre mondiale. C'est une chanson de marche, hein, vous pouvez l'entendre, qui est destinée à motiver les troupes et qui se popularise en 1986 lorsqu'elle est enregistrée par des membres de la garde présidentielle camerounaise avec leur groupe Golden Sounds. En fait, dans la chanson, ils insufflent un zeste de satire politique, de critique des anciennes puissances coloniales, et le morceau va faire un carton dans toute l'Afrique avant de devenir devient un quart de siècle plus tard, rebaptisé Waka Waka, l'hymne de cette toute première Coupe du Monde sur le continent africain.
Wow, donc si je résume, une chanson camerounaise chantée par une Colombienne pour une Coupe du Monde sud-africaine.
Exactement, on n'est pas très très loin du Camoulox et ça a fait grincer quelques dents en Afrique du Sud. Pourquoi ne pas avoir choisi un artiste local pour interpréter cet hymne? Et aussi, pourquoi avoir programmé si peu d'artistes africains pour la cérémonie d'ouverture? Il y a un boycott qui s'organise en Afrique du Sud. Alors la FIFA corrige le tir à la dernière minute en ce qui concerne la cérémonie, mais l'affaire Shakira n'arrange rien. Parce que même si elle a dédommagé en urgence le groupe Golden Sounds pour son emprunt musical, en interview, elle feint d'avoir composé et trouvé cette chanson toute seule.
It came to me in the most unexpected way. I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, wow. Came to me.
Donc là, elle vient d'expliquer comment la chanson lui est venue d'un seul coup comme ça, pendant une petite balade, boum. Bah, bien sûr, Shakira.
Elle a même l'idée du setting, là où elle était, au moment où ça s'est passé.
Exactement,
quoi.
En Uruguay, dans sa maison de campagne.
Évidemment.
Une grosse menteuse.
Donc c'est vrai que ça la fout un peu mal pour une première Coupe du Monde africaine, parce que derrière cette volonté de célébrer l'Afrique, en fait, on retrouve les vieux travers habituels. On reproche à Shakira de s'approprier le patrimoine camerounais, de le popiser aussi pour le rendre plus acceptable aux oreilles occidentales, et puis de déployer dans son clip une imagerie africaine un peu folklorique et caricaturale. Alors il y a du vrai dans tous ces reproches, mais il me semble que ce constat, il mérite quand même une nuance, parce qu'il ne faut pas oublier d'où elle vient, Shakira. Elle est colombienne et plus précisément de Barranquilla, une petite ville, enfin une grande ville d'ailleurs, située sur la côte caribéenne. Et ça, ce détail, il a son importance, parce que dans la région, on aime beaucoup les musiques africaines. Depuis les années 60-70, les marins colombiens ramènent de leur voyage en Afrique des vinyles qui font le bonheur des DJ locaux et de la population. Et cette affinité musicale, elle a une explication historique qui tient en un seul mot, l'esclavage. En fait, dans toutes les Caraïbes, les esclaves venus d'Afrique ont continué à faire vivre leur musique, qui se sont hybridées, qui ont été transmises de génération en génération. Ça donne par exemple la champeta colombienne. Ou encore la rumba cubaine. Les racines africaines sont évidentes dans ces rythmes-là. D'ailleurs, on parle de musique afro-caribéenne.
Donc ce que vous nous dites, Camille, c'est qu'avec Waka Waka, Shakira, elle s'inscrit dans cette tradition-là?
En tout cas, on peut le voir comme ça. J'ai envie de le voir comme ça. Et d'ailleurs, je suis prête à parier que le morceau qui l'a inspiré, en fait, c'est pas le chant camerounais qu'on a entendu tout à l'heure, c'est plutôt cette version-là. Ça, c'est une reprise dominicaine du groupe La Chicas del Can, qui sort en 1988. Shakira, elle avait 11 ans, elle l'a forcément entendu quelque part.
Eh oui, pas dans sa maison de campagne.
Peut-être. Donc quand on sait ça, on réalise que Waka Waka, finalement, c'est moins une histoire d'appropriation que de mondialisation de la musique. Un signe avant-coureur de ce qu'allait bientôt devenir la pop mondiale. Aujourd'hui, en 2025, la coréenne Lisa, le portoricain Bad Bunny, que j'adore, ou le nigérian Burna Boy, sont des stars internationales au même titre que Beyoncé et Taylor Swift. La musique n'a jamais autant circulé et Shakira, colombienne d'origine libanaise qui chante en espagnol, en anglais et même parfois en français pour le plus grand plaisir, a contribué dès les années 2000 à dessiner les contours de cette nouvelle pop globalisée.
Du coup, on écoute quelle version, Camille?
Si ça vous va, on écoute l'original, non?
Non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Écoutons plutôt. On l'a pas en entier. Écoutons plutôt pour la première fois sur France Inter et probablement aussi pour la dernière. Waka Waka.
Je trouve ça dommage.
Shakira sur France Inter. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh, and if you fall, get up, eh-eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. For Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation.
time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka.
Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom Zoom Back spécial 2010, l'affaire du bus de Naïsna continue avec celle qui est, rappelons-le, 20 ans plus jeune que notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui n'entendra donc pas sa chronique, il vient de s'effondrer en régie. Marie De Breuer, le foot et la politique, c'est peut-être vos deux zones d'ombre, Marie.
Mais vous plaisantez, le foot et la politique, ce sont mes deux mamelles, vous voulez dire? Je suis pas sûre de l'expression.
Non.
Messieurs, dames, c'est un moment solennel puisque pour la première fois, pour préparer ma chronique, j'ai consulté la documentation. Ces fiches longuement préparées par nos stagiaires, gentiment envoyées à nous, humoristes, pour l'inspiration, ces documents que je garde précieusement dans un coin de ma tête, aussi appelé la corbeille Gmail. Mais là, j'avoue, la grève des footeux en 2010, Roselyne Bachelot, j'avais zéro info. Je savais même pas que vous étiez de droite, Roselyne. C'est dur. C'est parce que vous êtes sympa. Je m'étais fait avoir par Mathieu Noël, déjà. Voilà. Mais bon, alors, je vais vous résumer l'affaire, quand même. Il y a un joueur de foot qui a dit à son patron « Va te faire enculer, sale fils de pute. » Bah, nous, si on entend ça dans les couloirs de France Inter, on se dit « Tiens, Cyril est arrivé plus tôt. » c'est Nicolas Anelka qui aurait dit à Raymond Domenech d'aller se faire enculer. Après, mais qu'est-ce qu'on sait de cette affaire, vraiment? Peut-être qu'Anelka est juste fan de Bigard. Voilà, s'il avait dit « Raymond, va bouffer le cul d'une pute et fous-lui-en par la chatte », on serait peut-être pas là aujourd'hui. Et je m'excuse auprès de l'Arcom.
Oui.
Désolé de citer des grands auteurs. C'est peut-être ma seule position de droite, mais moi, je pense que les insultes dans le monde professionnel, c'est OK. Voilà, tiens, regarde, va te faire foutre, Mathieu Noël. J'ai le droit. C'est la licence créative. Et Manon et Quentin, je vous chie dessus. Allez, mais essayez, Mathieu, tu vas voir, tu vas te faire du bien. Ça va te faire du bien. Oui, allez-y.
Je t'emmerde, Marie, je t'emmerde.
C'est horrible, la manière dont toi tu le dis, c'est juste affreux. T'as une mass murder énergie qui est terrible, ça passe pas du tout à l'antenne. Bon, bref, dans le monde du foot, ils sont moins flex sur les insultes. Donc hop, Anelka, il s'est fait exclure des clips de France, blablabla, vous l'avez déjà raconté. Ils ont fait la grève, ils sont restés dans un bus. Et si j'ai bien compris, il y a un mystère sur ce qu'ils ont foutu dans le bus. Bon, bah si c'est une grève, a priori, ils ont grillé de la merguez. Hein, après, je me dis, dans un bus, ça manque peut-être de ventilation pour tout ce qui est barbecue. Ou limite, faut foutre la clim à fond, voilà, et tenter la cuisson à l'allume-cigare. Bah, alors, faut vraiment être sûr qu'il y a un chiotte hein, dans le bus, parce que sinon, ça va rester un peu sur le bide. Bon. Du coup, ils ont fait un documentaire Netflix sur cette affaire. Moi, je suis plus branchée docu, viol et meurtre. Mais bon, je voudrais pas casser votre délire de bonhomme. Donc, on va faire le football, pourquoi pas. Puis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein, 23 hommes dans un bus, ça peut déraper. Je croise les doigts. Il y avait un gros dos, c'était de savoir qui était la taupe qui a balancé l'info voilà, sur Anelka au journal L'Équipe. Je me dis, pour le documentaire, ils devraient faire comme la série Doc du petit Grégory. Voilà, ils avaient pris un corbeau qu'ils avaient filmé dans le machin, dans la chambre du mioche, pour parler du corbeau. Bah, ils devraient faire pareil avec la taupe. Voilà, ils filment une taupe dans un bus. Après, une taupe, c'est assez dégueulasse, avec ses grandes griffes. En plus, elle voit rien, l'école. Et vous avez déjà vu le nez d'une taupe? Je vous ai imprimé une image, hein, voilà. Pour ceux qui ont
que
le son, bah bien sûr, ça ressemble à un anus avec des petits tentacules, c'est abominable. La dernière fois que j'étais aussi mal à l'aise, c'est quand Mathieu a dit...
Je t'emmerde, Marie.
Oh, Mathieu, stop, c'est insupportable. Vous devriez vraiment penser à faire de la presse écrite. Hein.
Mais j'y pense, mais c'est pas suffisamment payé. Merci, Marie De Breuer. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Z. Merci d'être avec nous le vendredi aussi.
Oui.
Ça fait plaisir. Roselyne Bachelot, c'était qui la taupe?
Il y a plusieurs noms qui ont circulé, la jambe tout la lampe, enfin rien n'est sûr.
Personne n'a jamais parlé. Merci beaucoup Roselyne Bachelot d'avoir évoqué avec nous ce souvenir glorieux de l'épopée magique des Bleus, Coupe du Monde 2010. Épopée qui s'est arrêtée au stade des Poules. Un dernier mot, spiritualité, Roselyne. J'ai lu dans Le Point que sur une étagère de votre bibliothèque, il y a une petite prière du pape François. Cette vie est le cadeau que Dieu nous a fait et elle est trop brève pour la consumer dans la tristesse. Vous êtes une fervente catholique, Roselyne Bachelot?
Pas du tout, je suis une agnostique déclarée. Mais au moment où j'étais tout près de passer l'arme à gauche atteinte par le Covid.
Vous êtes quand même le pape François.
Quand même, on se dit, il faut se garer, on ne sait jamais.
Le pari de Pascal, hein, voilà. Le pari de Roselyne. Merci encore, Roselyne Bachelot. Merci à tous les amis, Manon, Marie, Camille, Quentin. En régie, merci à Alexis Lacour, Florence Gimalac, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Arnault. Ghislain Fontana était à la réalisation. Guillaume Roux à la technique. Nous, on se retrouve lundi 16h pour zoomer sur le multi-alignement. Ces pays qui, comme l'Inde, refusent tout alignement systématique avec d'autres nations et procèdent au cas par cas. Car oui, le gai savoir, c'est aussi parfois de la géopolitique. Zoom, zoom, zen.